Régis Yankovici, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes le fondateur du site j'investismoinscher.fr. On va parler avec vous d'un style de gestion avec l'investissement dans les ETF. Ce sont des produits dont on va parler ensemble, qui ne sont pas forcément connus du grand public, justement. Qu'est-ce qu'il y a
encore.
Derrière Pas encore, mais ça viendra quand on sait ce qui se passe aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce type de produit?
Alors d'abord, pour rappeler les choses, ETF, Exchange Traded Fund, c'est-à-dire fonds indiciels cotés en bourse. C'est encore des produits qui sont relativement peu connus en France, extrêmement populaires aux États-Unis, lancés il y a à peu près 20 ans. Aujourd'hui dans le monde, c'est 3 000 milliards de dollars sur à peu près 5 000 produits. En Europe, ce sont des produits plus accessibles puisqu'ils sont agréés par l'AMF, c'est à peu près 2 000 produits pour 500 milliards de dollars depuis les premiers qui datent du début des années 2000. C'est un succès très significatif. À peu près tout type d'investisseurs sont aujourd'hui sur les ETF, sauf les particuliers français.
Voilà, visiblement, on ne leur a pas expliqué, on ne leur a pas donné suffisamment d'informations. Aujourd'hui, bon, ils passent principalement par les réseaux bancaires. Si on va demander à son banquier, je voudrais investir dans un ETF, il risque d'aller demander ce que c'est.
Oui, alors aujourd'hui, si je suis devant vous, en essayant de promouvoir l'utilisation des ETF. D'abord, rappelez que je ne suis pas producteur des ETF. J'ai choisi de conseiller l'investisseur particulier sur les ETF parce que j'ai estimé que c'était l'outil majeur d'une allocation d'actifs. Mais après tout, je ne suis que Régis Yankovici, j'ai 20 ans d'expérience. Mais si vous voulez faire quelque chose de bien, copiez les meilleurs. Les meilleurs aujourd'hui, qui sont-ils? Vous regardez tous les fonds d'investissement utilisés les ETF. Si vous n'êtes pas encore convaincu, les banques centrales utilisent des ETF. La banque centrale japonaise a explicitement dit qu'elle achetait des ETF dans son quantitative easing. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, regardez ce que dit Warren Buffett, ce qu'il conseille à sa femme de détenir après sa mort 95% d'ETF dans son portefeuille. Je crois que après, tout est dit.
Alors ça veut dire en même temps que, ben, si on termine sur Warren Buffett, ça veut dire qu'il y a toutes les classes d'actifs derrière, il y a tout type d'actifs derrière ces ETF, donc on a vraiment de quoi diversifier son portefeuille.
Oui, il ne faut pas associer l'ETF au risque action. Effectivement, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître, mais aujourd'hui, l'ETF est un accès. Rappelons quand même que c'est une structure juridique d'OPCVM, c'est une structure quand même relativement éconnue et protectrice, qui permet d'accéder aux actions, aux obligations, bon, monétaires, ça n'a pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui, mais disons-le, pourquoi pas aux matières premières. Donc c'est un peu le couteau suisse, l'ETF.
Alors, on a souvent parlé d'avantages sur les tarifs, justement, sur ces frais. C'est-à-dire que finalement, le particulier, quand il achète aujourd'hui un OPCVM, il ne sait pas trop quels sont les frais derrière. Il va peut-être, en caricaturant, il va aller regarder les meilleurs et puis il va acheter peut-être le meilleur de l'année sans forcément réfléchir sur les frais qu'il peut y avoir.
Je crois que la caricature n'est pas loin de la réalité. Effectivement, d'abord, pour connaître les frais d'un OPCVM, il faut se donner un peu de mal. Il faut regarder un document qui s'appelle le DC, qui répertorie les frais de gestion. C'est souvent ce qu'on regarde, mais ce ne sont pas les seuls frais, puisqu'il y a derrière les frais afférents à la rotation au sein de l'OPCVM et au final, les commissions, les éventuelles commissions de surperformance. C'est-à-dire que le coût total du portage de l'OPCVM, finalement, vous ne les connaissez qu'à la fin de l'exercice, si vous n'oubliez pas d'aller les chercher. Pour l'ETF, c'est beaucoup plus clair parce que vous savez tout dès le départ. Dès le départ, vous connaissez les frais de gestion de l'OPCVM qui sont, rappelons-le, en moyenne pour un OPCVM action sur un indice, on va dire, large, de l'ordre de 0,1 à 0,2%, soit à peu près 10 à 15 fois moins qu'un OPCVM classique de gestion active. À quoi il faut rajouter les frais de transaction. Bon, si vous êtes dans une banque en ligne ou n'importe où, vous savez très bien combien vous payez sur chaque transaction. Et puis il y a un dernier coût qui n'est pas très connu, mais essayons d'être tout à fait complet, les coûts, le spread entre l'achat et la vente. Si un ETF en théorie vaut 100, bien vous allez l'acheter avec une petite fourchette, disons à 100,05 et le vendre à 99,95. Donc cet petit écart est un coût.
Est-ce qu'aujourd'hui, justement, parce qu'il y a quelques années, on parlait de questions de liquidité sur des ETF. Est-ce qu'aujourd'hui, ces questions-là sont réglées? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a vraiment des ETF où il y a la transparence, on sait ce qu'il y a derrière, donc on peut vraiment aller choisir des ETF en toute, entre guillemets, toute tranquillité?
Alors, choisir un ETF demande quand même un certain travail. Vous pouvez savoir en allant tout simplement sur le site du producteur de l'ETF exactement son contenu, puisqu'il y a, c'est un sujet qui a été largement débattu dans les années passées, la réplication physique. L'ETF détient les titres qui composent l'indice que vous traquez. La réplication synthétique, où là vous avez à l'intérieur un produit dérivé, des titres, mais également un produit dérivé qui vous permet de suivre un indice. Mais dans les deux cas, vous savez ce qu'il y a dedans. Ensuite, en termes de liquidité, je crois qu'il y a une règle assez simple à conserver à l'esprit. La liquidité d'un ETF, c'est la liquidité de l'indice que vous cherchez à reproduire. Si vous achetez un ETF sur, disons, les petites capitalisations indiennes, ça sera sans doute beaucoup moins liquide qu'un ETF sur le S&P 500 ou sur l'Eurostock 50. Attention, j'attire sur un point, il faut ne plus avoir le réflexe de regarder les volumes échangés pour comprendre la liquidité d'un ETF, ça n'a rien à voir.
Alors c'est important pour les investisseurs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui leur manque finalement pour y aller, pour justement se dire, bah, finalement si j'ai moins de frais, ça m'intéresse. Et puis si en plus j'ai ce marché, cette profondeur de marché, pourquoi pas me lancer? Il doit faire quoi? Il doit aller chercher ETF par ETF? Il doit se faire son allocation d'actifs en disant, bah, je vais prendre des ETF actions, j'ai tel et tel marché? Il doit faire tout ça?
Mais écoutez, l'ETF c'est un produit pur. Donc ce n'est pas un produit qu'on peut acheter et disons porter indéfiniment. Ça veut dire qu'il faut avoir un avis et sur les marchés, évidemment connaître son profil de risque, mais ça chacun le connaît plus ou moins, mais il y a un travail d'allocation. Lorsque vous achetez un fonds diversifié, vous laissez le gérant, vous le déléguez, vous le payez pour ça en général cher, trop cher à mon goût, mais vous ne pouvez pas avec un ETF acheter et laisser. Vous, à mon sens, il faut être accompagné et c'est notre rôle aujourd'hui.
Sur ce qui se passe en ce moment sur les marchés avec ces banques centrales qui sont en train de diverger entre la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, est-ce que ça c'est propice à avoir une allocation d'actifs particulière dans ces périodes-là pour se protéger peut-être d'un risque futur?
Alors, je vais d'abord répondre à une question que vous peut-être posez implicitement, c'est-à-dire l'utilisation des ETF n'est pas adaptée à un type de marché. Les ETF, c'est pour tous les marchés, pour tous les moments, à condition de savoir effectivement les utiliser et monter son allocation d'actifs. Par rapport à ce que vous me dites, évidemment, aujourd'hui, on est dans un monde bipolaire entre la Banque centrale américaine qui est en train de resserrer sa politique monétaire et toutes les autres banques qui font exactement l'inverse. Aujourd'hui, je le dis assez clairement, c'est une situation qui devrait conduire dans le mur. Le mur, il est simple, c'est que la hausse du dollar va importer tellement de déflation aux États-Unis que la Banque centrale américaine sera obligée de mettre un terme à cette politique. Il y a une autre sortie de cette position qui, elle, est plutôt favorable, c'est si la croissance dans le reste du monde repart. Aujourd'hui, on ne le voit pas et on ne devrait pas le voir pour les 6 à 9 prochains mois. Donc, à mon sens, nous sommes dans une zone de turbulence dans laquelle il faut faire très attention.
Le mot de la fin, si vous aviez en un mot à convaincre un investisseur qui hésite et qui se dit « Oh, bah, je suis bien content avec mes 6 caves, mes fonds, voilà, je connais le gérant depuis longtemps et qui devrait basculer sur un ETF », qu'est-ce que vous lui diriez?
Je lui dirais qu'il regarde attentivement ce qu'il paye pour avoir cette relation privilégiée avec son gérant. Il est clair que certains gérants délivrent des performances très satisfaisantes en gestion active. C'est indubitable. Mais les statistiques sont assez têtues, les chiffres sont très têtus, et ils indiquent que la grande majorité font moins que leur indice de référence, prennent beaucoup de frais. Donc ne pas avoir d'ETF dans un portefeuille, nous on va jusqu'à dire qu'il ne faut avoir que de l'ETF. Mais soyons raisonnables, prenons le client par la main, introduisez des ETF dans votre portefeuille, vous ne vous en porterez que mieux.
Eh bien voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Régis Jankovici d'avoir été avec nous.
Merci Didier.